Vivre FM podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
À chaque jour son grand témoin, quel sera le vôtre aujourd'hui?
Aujourd'hui l'histoire incroyable de Rupert Isaacson et de son petit garçon autiste. Alors Rupert Isaacson, il est américain et face au handicap de son fils, il a décidé d'entreprendre un voyage à cheval, un voyage à travers le monde à la rencontre des tribus chamanes de Mongolie. C'est assez incroyable et grâce à différents voyages, eh bien, les progrès de son petit garçon furent saisissants. Il est aujourd'hui complètement relié au monde. Ce récit est plein d'espoir et il a donné vie à un livre traduit dans plus de 30 langues intitulé « L'enfant et le cheval ». Rupert Isaacson est mon invité aujourd'hui sur Vivre FM.
En selle, jusqu'à 13h avec Jean-Baptiste Bergès et son invité.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Sur Vivre FM aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rupert Isaacson. Bonjour Rupert.
Bonjour.
Vous venez me présenter ce livre, magnifique ouvrage qui s'intitule « L'enfant et le cheval devant l'extraordinaire voyage qui a changé une vie ». C'est publié chez Albin Michel. C'est votre histoire et c'est l'histoire de votre petit garçon, Rowan, qui est autiste et que vous avez amené à faire un voyage extraordinaire qui a changé sa vie, c'est ça qu'on peut dire?
Oui, exactement. Je suis le père d'un jeune autiste qui est, il a commencé très 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 sévère. Et pas les moyens et les chemins pas prévus du tout. On est arrivé à un point très fonctionnel et ça c'est l'histoire. Et on a traversé presque tout le monde pour faire ça, mais enfin, on a eu un très 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 bon résultat.
Donc vous êtes allé en Mongolie, parce que je rappelle que vous êtes texan, c'est ça? Vous êtes d'origine du Texas?
Oui, je suis anglais par naissance et élevage, mais oui, j'habite aux États-Unis, au Texas, et mon fils était né là. Et quand il a été diagnostiqué en 2004, tout le langage des professionnels qui m'avaient donné autour de cette condition était négatif, dysfonction, désordre, etc. Mais je suis journaliste aussi et puis entraîneur des chevaux. Mais comme tous les journalistes, j'ai pensé, c'est quoi l'autre côté de la question? Où sont les autistes adultes qui ont eu du succès dans leur vie? Et j'en ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Dr. Temple Grand, un Temple Grandin, et beaucoup des gens qui écoutent probablement sont familiers avec elle. Elle est très autiste mais elle, maintenant, elle est un professeur de sciences des animaux à l'Université de l'État de Colorado, écrivant de best-sellers de plusieurs livres au sujet des cerveaux, etc. Et j'ai demandé une interview avec elle et j'ai demandé à elle comment peut mon fils être comme vous. Et elle m'a dit, c'est assez simple, Rupert, il faut faire trois choses. Suivre ton enfant, suivre ses intérêts et ses obsessions. Deuxième chose, fais ton truc en plein air parce qu'il y a moins de mauvais boutons sensoriels qui peuvent bloquer l'apprentissage. Et troisième chose, il faut qu'il bouge, parce que la plupart des autistes sont des apprentisseurs kinesthétiques. Et c'était elle, un autiste elle-même, qui m'avait conseillé comme ça. Et j'ai suivi ses conseils. Et ça, c'était le secret, je pense, de cet succès.
Si je comprends bien, Rupert Isaacson, vous avez voulu, en fait, lorsque vous avez appris que votre enfant était autiste, vous avez eu envie de l'accompagner pour tirer le meilleur de son handicap, en fait, pour transformer l'essai, si on peut dire ça comme ça.
Oui, exactement. Ou même pour me demander, est-ce que c'est vraiment un handicap? Parce que, au début, il avait des très grands troubles sensoriels, des colères. Il était incontinent, il ne pouvait pas parler. Mais j'étais sûr qu'il avait un très, très, très bon intellect dedans. Et maintenant, il a prouvé que c'est ça. Ça, c'est le cas. Mais c'est la question, c'est comment accéder à cet intellect. Donc, j'ai suivi le conseil de Dr. Temple Grandin, Dr. Temple Grandin, et je suis allé dans la forêt avec mon enfant. Et on a immédiatement commencé à trouver un lien l'un à l'autre, par l'exploration de la nature. Et puis un jour, il s'est rencontré avec le jument de mon voisin. Ce n'était pas mon idée de le faire monter à cheval, pas du tout. Il a commencé une connexion avec ce jumeau qui était si profond, si frappant, que, ok, j'ai suivi ça et j'ai monté à cheval avec lui. Il a commencé à parler le premier jour qu'on a fait ça. Et puis, on a vécu dans la salle ensemble pendant quelques années. Et puis, après ça, on a commencé à faire les grandes balades à travers la Mongolie, c'était le premier. Et puis, après ça, en Afrique, en Australie, dans la réserve des Navajos aux États-Unis. Et j'ai trouvé que vraiment, peu à peu, tous ces troubles ont disparu. Et il a réussi un niveau très, très fonctionnel. Et en même temps, il m'a fait appris qu'il y a beaucoup de dons dans cette condition. C'est pas une maladie, quoi. C'est un type de personnalité. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, comme une mémoire extraordinaire, comme un intellect extraordinaire, comme un ego très tranquille. Ça, c'est un don énorme. Peu à peu, j'ai changé mon avis autour de l'autisme. Que c'est pas une maladie, c'est une aventure, quoi.
Parce qu'au départ, vous ne connaissiez pas ce milieu-là, vous ne connaissiez pas cet handicap. Comment vous avez réagi lorsqu'on a diagnostiqué cette maladie sur votre fils ?
Le diagnostic est venu parce que ma femme est professeure de psychologie à l'Université de Texas, dans l'école de l'éducation. Donc, elle est une psychologiste développemental elle-même. Et les étapes de développement de cerveau que mon garçon semble manquer, elle a remarqué ça presque immédiatement. Et donc, il était diagnostiqué à 2 ans et demi parce qu'on a accès à beaucoup de neurologistes chez nous.
Alors, au fil du temps, vous rendez compte que les animaux ont un impact positif sur votre petit garçon. Nous, on parle beaucoup de zoothérapie en France. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi démocratisé au Texas, la zoothérapie, le lien avec les animaux, etc.?
Oui, c'est très facile à faire. Mais aussi, je suis cavalier, j'habite sur une petite ferme, etc. Donc, j'avais accès à ça. Mais même ici en France, l'équithérapie et les fermes de thérapie, c'est connu maintenant et il y en a beaucoup en France. La France est assez progressif dans ce monde. Peut-être un peu plus qu'aux États-Unis en fait, parce que aux États-Unis, si on n'a pas un lien avec une association où on vit pas la campagne, c'est pas quelque chose qui est nécessairement très accessible, par exemple pour les gens qui vivent dans les grandes villes. Mais ici en France, il existe beaucoup de associations qui se concernent avec ça, même dans les banlieues, même dans les grandes villes. Peut-être c'est un peu plus facile ici de trouver accès à ce type de thérapie.
Alors dans ce livre, dans votre ouvrage qui est quand même devenu un best-seller international, il a été traduit en plus de 30 langues, vous racontez ce voyage que vous avez parcouru à travers d'abord la Mongolie, ça c'est votre premier voyage. Comment vous avez l'idée de partir là-bas au bout du monde? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir avec votre petit garçon?
C'était une logique un peu bizarre. Ok, j'ai dit que je suis journaliste, hein? Et ma famille est de l'origine de l'Afrique du Sud et Zimbabwe. Okay. J'étais né à Londres, mais ma famille est toute africaine, coloniale. Et je travaille dans le monde des droits humains là-bas. J'assiste les tribus chasse-cueilleurs regagner les droits à leur territoire ancestral qu'ils avaient perdu. L'année que mon fils était diagnostiqué, et la même année aussi qu'il s'est rencontré avec le jumeau Betsy, a commencé à parler au-dessus, j'étais obligé d'amener une délégation de ces tribus de l'Afrique aux Nations Unies à New York et au département de l'État à Washington, D.C. Quelques mecs qui étaient dans cette délégation étaient les guérisseurs traditionnels dans leur propre culture. Ils sont rencontrés avec mon fils et ils ont fait un peu de travail quoi, avec lui. C'est seulement... il tombe dans un autre état de conscience. J'étais un peu étonné pendant le temps, les 4 ou 5 jours que mon fils était avec eux. Il a commencé à vraiment perdre quelques comportements très obsessifs. J'ai pensé, réaction radicale et positive au cheval, il commençait à parler, réaction radicale et positive à ce type de guérison que je peux pas... C'est un peu irrationnel, mais je ne peux pas l'expliquer, mais je peux voir qu'il y a un résultat. Est-ce qu'il y a un lieu dans le monde qui combine ces deux choses? Le cheval, il vient de où? La Mongolie, il a été domestiqué là. OK, grand système fort de ce type de guérison, chamanisme là. Et j'avais un sens très instinctif, très fort, faut y aller. Donc, c'était grâce à ça qu'on a fait cette aventure.
Donc, c'est vraiment pour dans un objectif pour guérir votre enfant que vous avez décidé d'aller en Mongolie pour rencontrer ces chamans.
Peut-être, le mot, c'est pas guérir, parce qu'on peut guérir l'autisme. C'est améliorer. Je suis pas en lutte avec l'autisme. J'adore l'autisme. Je pense que l'autisme, c'est un point de vue excellent. Ils ont une clarté d'intellect et tout ça, excellent. Mais il avait quelques troubles, oui, et j'ai voulu améliorer cette condition. C'était pour faire ça qu'on est allé à Mongolie, mais pas pour le guérir. Il y a une différence, je pense.
Rupert Isaacson, restez avec nous dans un instant. La suite de cette émission, vous continuerez de nous raconter ce voyage au bout du monde avec votre enfant et ce livre que vous publiez chez Albin Michel. Il s'intitule « L'enfant et le cheval de vent, l'extraordinaire voyage qui a changé une vie ». À tout de suite sur Vivre FM.
Vous écoutez Le Grand Témoin.
Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la seconde partie du Grand Témoin sur Vivre FM et le Grand Témoin aujourd'hui s'appelle Rupert Isaacson. Il est américain et il vient nous présenter cet ouvrage publié chez Albin Michel, L'Enfant et le Cheval de Vent, l'extraordinaire voyage qui a changé une vie. Vous racontez Rupert dans cet ouvrage, je le rappelle, qui a été traduit dans plus de 30 langues. Vous racontez le voyage extraordinaire que vous avez parcouru à travers le monde pour améliorer le quotidien et améliorer le quotidien de votre enfant autiste. Justement, vous pouvez nous raconter concrètement qu'est-ce qui a changé après ce premier voyage en Mongolie dans le comportement de votre enfant, Rupert.
Ok. On a traversé le nord de la Mongolie à cheval. On a vu plusieurs guérisseurs. Mais au fin de ce voyage, on était en Sibérie, vachement au nord, dans les forêts et les montagnes, sur la frontière avec la Russie. Et là, il habite les peuples des rennes, qui habitent avec les rennes, qui montent sur les rennes, tout ça. Et ils ont un système de chamanisme très fort, très ancien. Le guérisseur là m'a dit, OK, les trois choses qui te dérangent le plus, son incontinence, ses colères, ses crises, et aussi son incapacité de faire des amis. Il dit, OK, ces choses vont changer assez rapidement, mais pour fixer, pour confirmer cette amélioration, il faut que tu fais trois voyages de plus en plus. Il a rigolé. Je sais que moi, j'habite un peu loin. Et toi, Rupert, tu as des familles en Afrique. Va par là où c'est un peu plus facile pour toi. Mais il faut, c'est très important pour fixer cette amélioration en place que tu fais ces trois prochains voyages. Je dis, OK. Bon, je suis arrivé chez moi, à retourner en Texas, et les trois choses les plus pires, comme il avait dit, mon fils avait laissé en Mongolie l'incontinence, les colères, plus, pas plus de ça. Il était propre, enfin, après 6 années, et il a commencé à faire les amis avec tous les autres petits-enfants du coin.
Ça veut dire que déjà, après ce premier voyage, vous avez observé une amélioration dans son comportement, donc il n'était plus incontinent, et au niveau de la sociabilisation, là aussi, ça s'était arrangé, et il allait plus vers les autres. Vous avez senti cette différence?
Oui, c'était une amélioration beaucoup plus que je pouvais prévoir. C'était vachement étonnant. Même ma femme, qui est scientiste, pour elle, elle a dit, je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui est arrivé, mais c'est devant mes yeux, ok, il faut accepter parfois que les choses arrivent qu'on ne peut pas expliquer rationnellement.
Encore aujourd'hui, on ne peut pas l'expliquer, en fait. C'est juste cette rencontre avec ces chamans qui ont amélioré le comportement de votre enfant.
En fait, il paraît oui que ça, mais aussi, il faut pas oublier qu'on était en famille, à cheval, en pleine nature, pendant un mois, complètement ensemble, et un effet de ça a son propre type de guérison, mais certainement, après les cérémonies avec les chamans, tout est changé. Mais après un an, mon fils a commencé à régresser. Les colères, petit à petit, sont revenues. Et les accidents dans le pantalon, même chose. OK. Mais le moment que je suis retourné aux États-Unis de la Mongolie, j'ai commencé à organiser le prochain voyage. C'était en Namibie, en Afrique du Sud-Ouest, où j'ai une relation personnelle avec les guérisseurs de Houssman. Dans le Kalahari. Donc, j'étais un peu inquiété, mais j'avais suivi les conseils de cette chamane et on était prêts pour partir. Et en fait, après cet voyage extraordinaire en Afrique, dans un coin très, très sauvage, avec les chasseurs-cueilleurs, mon fils a regagné ce qu'il avait perdu, mais aussi ce qui est arrivé, qui n'était pas là avant, c'était une dialogue mathématique, quoi, un intérêt en mathématiques et qui presque immédiate. Il a commencé avec la mathématique d'une façon encore frappant, soudain, pas prévu, qui m'a vachement étonné. Mais c'était là, c'est ça qui est arrivé après le deuxième voyage en Afrique.
Et après, il a fallu un troisième voyage?
Oui. L'année après ça, mon boulot m'a porté en Australie, donc j'ai cherché un bon guérisseur là, dans les forêts tropicales au nord. Et lui, il a travaillé avec mon fils pendant 3 jours aussi. C'est presque toujours 3 jours avec les chamans. Et après ça, mon fils a commencé à faire les blagues pratiques, quoi, sur moi. Et ma femme, j'ai dit qu'elle est professeure de psychologie développementale à l'Université de Texas. Elle a remarqué immédiatement, oh Rupert, elle m'a dit, ça c'est la théorie de l'esprit. Et théorie de l'esprit, c'est quelque chose que avec les autistes arrive soit très tôt, très, très en retard, soit pas du tout. C'est quand on comprend vraiment que les autres gens ont des autres pensées que nous-mêmes, toi-même, moi-même, et il faut modifier nos comportements pour communiquer dans une façon fonctionnellement avec. C'est quelque chose qui arrive pour les enfants en général à peu près à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, mais pour mon fils et la plupart des autistes, il manque cette étape. Et il a les blagues pratiques, quoi, sont une signe que ils ont passé cette étape. Et bon, c'était 3 ans, 4 ans un peu en retard, mais c'est venu après cette guérison avec le chaman d'Australie. Et puis, le dernier voyage, c'était sur la réserve des Navajos aux États-Unis, pas loin d'où j'habite. Et ce qui est arrivé après les 3 jours de cérémonie là, était finalement la conversation, la vraie conversation, comme on a maintenant sur la radio, vous et moi. Parce qu'il était, il avait ses paroles, il était verbal par ce point, mais c'était quand même un peu scripté, un peu pas normal, quoi. Et après, presque le jour, on pourrait dire même le jour après cette dernière guérison, il a commencé à parler comme ça, complètement fonctionnellement, normalisé. C'était un peu difficile à croire, mais c'est arrivé.
Alors, Rupert Isaacson, grâce à ces 3 voyages à travers le monde, à la rencontre des chamans de différentes tribus, votre petit garçon autiste a pu s'améliorer, hein, vous avez réussi à améliorer son comportement. Est-ce qu'on peut quand même expliquer à nos auditeurs, aux auditeurs français, comment se déroule une séance de chamanisme? Parce qu'on ne connaît pas trop ça.
Oui, c'est toujours le même. Même si c'est dans l'Amazon ou la Kalahari ou Sibérie ou Australie, le moyen de chamanisme, c'est presque toujours le même. Un chaman, c'est quelqu'un qui est formé pendant longtemps, des décades, quoi, pour accéder à un état de, on peut dire transe, mais un autre état de conscience. Et quand ils sont dans cet état, dans leur esprit, dans leur expérience, ils sont dans le monde des esprits et ils parlent avec les esprits des ancêtres. Et ils sont donnés en général plusieurs morceaux d'informations pour comment améliorer la condition de personne qui est devant ses yeux. Et puis quand ils retournent à cet état, dans l'état normal de conscience, ils transmettent cette information aux clients, quoi, aux personnes, aux parents dans notre cas, pour dire, OK, il faut faire ça, 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 et ça c'est l'information que j'ai. Et pour les gens occidentaux, c'est quelque chose un peu difficile, mais il faut souvenir que si tout ça était complètement bullshit, quoi, tout le monde dans ces cultures serait mort, parce qu'ils habitent très, très, très loin de accès souvent à la médecine occidentale. Quand c'est disponible, ils l'utilisent, bien sûr, mais en général, c'est pas disponible pour eux. Et ils sont obligés d'utiliser leurs moyens traditionnels pour adresser les maladies, parce qu'ils tombent malades comme tout le monde.
Alors, on peut donner par exemple des exemples dans votre ouvrage. Vous parlez d'une danse lente et rythmée par le martèlement de leurs pas, que le guérisseur porte ses mains sur votre colonne vertébrale. Il y a tout un rite, hein, qui leur est propre à chaque tribu. Vous, dans quel état vous trouvez? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes mis dans cet état de transe, justement?
Bon, c'est une bonne question. En général, c'est le guérisseur qui prend la souffrance de personnes devant ses yeux dans son propre corps. Par exemple, avec les Busman, on peut les voir vraiment en train de souffrir. Même on voit le son du nez et des choses comme ça. Avec les chamans de Mongolie, ils demandent que c'est toi, tu souffres. Pour jeter les maladies. La première cérémonie, un chaman m'a frappé avec une cravache pour éviter la mauvaise énergie. OK, j'étais un peu étonné. Le dernier chaman des peuples de Rennes, c'était très, très, très doux. Il n'a pas vraiment touché. Il était un chaman de beaucoup, beaucoup plus âgé, beaucoup plus seniorité, quoi. Et avec lui, c'était très tranquille. Et puis avec les chamans de réserve de Navajo, Ils utilisent la transpiration. On va dans une, en anglais, on dit sweat lodge, une logement de transpiration. C'est une tente qu'ils construisent avec des branches des arbres et les couverts avec les peaux des bouffes. Et dedans, il y a des pierres qui sont très, 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 très chaudes, blancs avec la chaleur. Et on est là et on transpire et c'est difficile à respirer. Pas l'enfant, hein, pas mon fils, moi et ma femme étaient obligés de faire ça. Et de son part. Et on transpire, on prie et on suit les prières du chaman. Et par ces moyens, on participe dans la cérémonie.
Donc ce sont des expériences extrêmement fortes en émotion, on l'imagine, et c'est ce que vous racontez dans ce livre « L'enfant et le cheval devant, l'extraordinaire voyage qui a changé une vie ». C'est publié aux éditions Albin Michel. Restez avec nous, Rupert Isaacson. Dans un instant, on continue de parler de cette formidable aventure sur l'antenne de Vivre FM. A tout de suite, juste après la pause musicale.
Midi 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la troisième partie du grand témoin sur Vivre FM avec Rupert Isaacson. Il vient nous présenter son ouvrage L'enfant et le cheval devant, publié aux éditions Albin Michel. Magnifique ouvrage traduit en plus de 30 langues où vous racontez ces trois voyages à travers le monde, à travers la Mongolie notamment, à la rencontre des chamans pour améliorer le comportement de votre petit garçon autiste. Magnifique aventure, Rupert Isaacson. On peut dire, même vous, en partir comme ça avec son fils, ça a dû vous rapprocher, non ? Sceller des liens indestructibles.
Oui, c'était une aventure très, très, très forte et beau. Partager les aventures comme ça avec nos enfants, ça vraiment, ça fixe, ça confirme la relation d'un parent et un enfant. D'aller au bout du monde comme ça ensemble, c'était un rêve. Mais il y a un peu de science derrière ce qu'on fait aussi. C'est pas tous irrationnel. Il paraît que, spécialement avec les chevaux, il y a un effet sur le bassin du cavalier du petit qui est monté. Quand on bascule le bassin comme ça pendant une période assez longue, le corps produit un hormone qui s'appelle l'oxytocine. Et l'oxytocine, c'est l'hormone de bonheur, mais aussi, plus important, l'hormone de connexion, de communication. Et les gens, spécialement les jeunes autistes, sont fermés dans soi-même. Ça veut dire le mot l'autisme, auto en grec, c'est... Ça veut dire soi-même, fermé dans soi-même, coincé dans soi-même. Mais quand on fait ça à cheval pendant une longue période de temps, cette basculation de bassin, le petit est rempli avec cette hormone de communication et soudain, tout d'un coup, il a envie de communiquer. Et puis aussi ce type de mouvement. Où il doit trouver la balance moment par moment, ça active le cérébellum qui se concerne avec les compétences moteurs et sociaux. En même temps, le système vestibulaire est activé et ça se concerne avec la balance mais aussi avec l'attention. Et donc, le petit est tout d'un coup dans une position idéale, pas pour seulement recevoir l'information, mais pour le garder dans la tête et aussi communiquer. Grâce à ça, le cortex préfrontal commence à marcher mieux, qui se concerne avec la logique et le contrôle des émotions. Ça dit à l'amygdala, qui est la partie du cerveau qui se concerne avec l'instinct de fuite et se battre, de se relaxer, parce que les gens avec autisme souffrent beaucoup de ça, de cette anxiété tout le temps. Enfin, il y a une protéine qui s'appelle en anglais BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Ça veut dire un effet de l'élevage des neurones dans le cerveau, par le cerveau soi-même, qui est produit par ce type de mouvement. Et c'était à cause de tous ces effets ensemble que mon fils a commencé pas seulement à parler à cheval, mais aussi lire, faire les mathématiques et tout ça.
Donc ça prouve que l'animal et particulièrement le cheval a vraiment un impact sur les enfants autistes.
Oui, c'est sur le cerveau. Le corps sensoriel, le système sensoriel, ça se calme okay, aussi grâce à cet effet de l'oxytocine, mais aussi ces cinq effets sur les parties du cerveau qui se concernent avec l'apprentissage. Et on peut le faire même sans cheval. Donc on a maintenant deux projets et on travaille en 14 pays maintenant avec les autres autistes, soit à cheval, soit avec l'équipement de jeu pour reproduire cet effet. Et on travaille maintenant avec 8 universités mondiales pour faire les recherches sur ça et produire les modèles éducatifs pour les autres parents dans notre position et pour les écoles aussi.
Et c'est pour ça que vous venez souvent en France pour suivre des formations en équithérapie, c'est ça?
Exactement. Je suis maintenant en train de faire une formation en Île-de-France, tout près de Senlis, à Nectury, avec les équithérapeutes pour ça. Et aussi, je commence à travailler avec les écoles ici pour comment le faire dans une salle de classe, même sans cheval, parce qu'il existe quelques techniques pour reproduire cet effet, voilà. Même si ce n'est pas aussi puissant.
Oui, parce que pour vous, aujourd'hui, Robert Isaacson, l'important, c'est de témoigner, raconter votre histoire, justement, pour que ça puisse aider d'autres personnes, d'autres familles. C'est un sujet qui, rien qu'en France, l'autisme, c'est un sujet qui touche de nombreuses personnes et on en parle beaucoup sur notre antenne. On va justement donner la parole à nos auditeurs. Ils ont été nombreux à vous envoyer des questions, Robert Isaacson. C'est l'heure des questions des internautes. Et on a une première question d'une auditrice qui s'appelle Annie de Vincennes. Elle est maman d'une enfant autiste et elle n'a pas les moyens d'effectuer un voyage aussi lointain. Elle vous demande que faire justement pour avoir accès à ce genre de technique, comme vous dites, l'équithérapie par exemple, vers qui elle peut se tourner.
Ok, très bon. Ok, la première chose c'est aller dehors avec votre fils dans la forêt de Vincennes et le suivre et voir où il veut aller et avec quoi il veut faire contact avec. Est-ce qu'il aime les arbres? Est-ce qu'il aime les animaux? Est-ce qu'il aime les oiseaux? Et commencer à faire ses études comme ça, en plein mouvement, en plein nature, parce qu'il n'y a pas de mauvais boutons sensoriels dans cet beau environnement du forêt de Vincennes. Et puis, si elle vient, elle va sur notre website, horseboyworld.com, horseboyworld.com. On a tous nos modèles éducatifs. Là, elle peut faire un download quoi, de l'ordinateur de tous ces modèles éducatifs et les utiliser avec son fils demain dans son salon, dans son jardin, au parc et dans la forêt de Vincennes. Et bon, elle est prête à faire tous ces apprentissages elle-même avec lui, c'est très très simple.
Alors si je comprends bien Rupert, c'est qu'en mettant en application ces méthodes et les méthodes que vous partagez sur votre site, chaque parent peut aider son enfant autiste à améliorer son comportement comme vous l'avez fait avec votre petit garçon.
Exactement, vous avez complètement raison. Sur notre website, il existe presque 150 modèles éducatifs qu'on peut utiliser. Il faut les faire soit dehors, soit dedans avec quelques changements de petits changements sensoriels de l'environnement qui sont faciles à faire, qui sont décrits sur le site. Et puis, si vous utilisez ça dans un parc, dans un jardin, même dans votre salon, et la forêt, blabla, on peut avoir tous les effets qu'on a eu avec notre enfant sans quitter votre propre lieu.
Tout, Tous les renseignements sur votre site www.horseboyworld.com. On a une autre question de Paul de Versailles. Il vous demande quelle a été la rencontre, s'il y avait une seule rencontre, la rencontre la plus marquante au cours de vos différents voyages, Rupert.
Oh, ça c'est difficile. Hein? Ils étaient tous complètement émerveillants, ce type d'aventure. Hein? Mais peut-être, quand j'étais en Australie, j'ai vu quelque chose qui challenge mon sanité un peu. En général, avec le chamanisme, c'est le chaman qui fait le truc, qui souffre dans son corps, qui prend dans son corps la souffrance de personnes qui soigne. Mais j'ai vu quelque chose un peu radical en Australie. Le guérisseur était en train de tirer dans l'air autour de la tête de mon fils et il a fait les petites gestions de comme il jetait quelque chose dans une tasse, une petite, like, comme une tasse de thé, quoi. Qui était vide juste à côté de lui. Et moi et ma femme, on regardait dans cette tasse, et cette tasse était en train de remplir avec une liquide, un mucus, quoi, clair, avec un tout petit peu de rouge dedans, comme un sang ou quelque chose. Et chaque fois que le chaman a fait ses gestes avec ses mains, un peu plus de cette liquide et ses bras étaient tout nus, il n'était pas capable de cacher rien, blablabla. Et ma femme qui est scientiste et moi, pouf, qu'est-ce qui arrive ici? Et j'ai demandé bien sûr au chaman après, et il a souri, il a répondu pas. Et la même chose le lendemain, et puis enfin le troisième jour, il a fait la même chose, mais il n'y avait presque rien dans la tasse. Et il dit, OK, maintenant, c'est fini. Le travail est fait. Il va très bien. Bon. Et c'était tout. Mais à ce jour-là, je peux pas vraiment comprendre ce que j'ai vu avec mes propres yeux.
Bah ouais, il y a eu tellement de rencontres. Vous les racontez hein, dans votre livre. Il s'intitule « L'enfant et le cheval devant, l'extraordinaire voyage qui a changé une vie ». C'est publié chez Albin Michel. Je le conseille à tous nos auditeurs. C'est écrit par Rupert Isaacson. Et Rupert Isaacson, merci beaucoup d'être venu sur Vivre FM aujourd'hui pour nous raconter cette fabuleuse aventure. Et on embrasse très fort votre petit garçon et toute votre famille. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était un grand honneur.
Vivre FM, podcast.